Chapitre 7. La subite disparition de Saint-Coude avait vivement affecté M. Dubreuil et ses amis. Ils ne pouvaient croire que cet homme, qui jusqu'à ce jour s'était toujours noblement conduit, se fût enfui lâchement au moment où il devenait le plus indépensable. Maintenant que l'on est en plein Tibet, plus que jamais, la caravane de M. Dubreuil avait besoin d'un guide habile. Les Tibétains n'aiment pas les étrangers, et le moindre ennui qu'ils puissent causer aux Européens, c'est de les forcer à rebrousser chemin. Il fallut donc confier à Lu Chang le soin de conduire la caravane. Timothée Fromm était enchanté de ce qui arrivait. La disparition de Saint-Coude et du palanquin lui rendait toute sa liberté d'action. Un secret pressentiment l'avertissait que Saint-Coude était chargé de l'espionner. Il ignorait pour le compte de qui, mais maintenant il s'en souciait fort peu. Avec l'aide de Lu Chang, il allait tenter un coup de main décisif, et cette fois, il était bien certain de réussir. Les bons soins dont il avait été l'objet à plusieurs reprises de la part de l'ingénieur et de sa fille ne le faisaient pas renoncer à ses projets. Il s'était juré de supplanter M. Dubreuil, et il voulait mener son entreprise à bonne fin, coûte que coûte. « Enfin, nous voilà au Tibet !» dit-il un jour à Jean et à Germaine, qui ne quittaient plus depuis quelque temps. « Ah oui, cela n'a pas été sans peine !» répondit Jean. « Et j'espère que nos tribulations sont terminées !» ajouta Germaine. « Ah, nous sommes loin de la partie de plaisir dont mon père parlait, il y a quelques mois, quand nous quittions Canton. » « Bon, tout cela est d'histoire ancienne, » fit négligemment Jean, « mais nous ne sommes pas encore à Lhassa. »« Mais moi, je n'ai pas encore fait le tour du monde, » dit Timothée Fromm tout pensif. « Allez, je vois que vous êtes brave homme, monsieur Fromm, » répliqua Germaine. « Vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés du début de notre voyage. Qui sait si nous ne rencontrerons pas de pire ?»« Mademoiselle, » répondit l'anglo-saxon, « n'ignorez pas dans quel but, ni à la suite de quelles circonstances j'ai entrepris ce voyage. Je l'accomplirai jusqu'au bout et rien, si ce n'est la mort, ne pourra m'en empêcher. » En disant ces mots, il regardait la jeune fille. Depuis qu'ils avaient quitté Canton, c'était la première fois qu'il faisait allusion à la demande en mariage qu'il avait autrefois adressée à Germaine. Celle-ci rougit et ne répondit pas. Elle avait remarqué que depuis qu'elle avait tiré l'anglo-saxon de la dangereuse situation où il se trouvait, le jour où la caravane avait failli être détruite par une avalanche, Timothée Fromm s'était montré plus empressé et galant vis-à-vis d'elle. Jean Cascaret avait également remarqué les assiduités du reporter et en avait parlé à son cousin. Mais Georges Fromentier n'avait fait qu'en rire. Il avait demandé au jeune homme, « Est-ce que tu serais jaloux, toi ?» Jean s'en était défendu, et naïvement, il avait avoué à son cousin qu'il aimait Germaine, mais qu'il n'avait pas osé le lui dire. « Oh, je comprends tes scrupules, » avait répondu Georges, « et je t'en sais gré. Mais je ne suis pas formellement engagé vis-à-vis de Germaine. » Et aujourd'hui, que je suis absolument sûr que sa sœur n'est pas morte, que ma fiancée me sera rendue un jour, je suis heureux de voir que tu as plus que de l'estime pour la fille cadette de M. Dubreuil et que de son côté... Alors, tu crois que je ne lui déplais pas? Mais tu es donc aveugle, avait répliqué Georges en tournant brusquement le dos à son cousin. Aussi Jean supportait-il avec peine la présence de Timothée Fromm aux côtés de Germaine. Et ce jour-là, il eut un mouvement de mauvaise humeur en entendant le reporter rappeler à Germaine sa demande en mariage. « Je vous souhaite de réussir de tout mon cœur, » dit enfin Germaine à Timothée Fromm. Oh, je donnerais volontiers je ne sais quoi pour le voir au diable, murmura Jean à l'oreille de Germaine, pendant que l'anglo-saxon rejoignait Monsieur Dubreuil. Est-ce que vous seriez jaloux? Repartit la jeune fille, se servant sans s'en douter des mêmes termes que Georges Fromentier. Non, 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 je ne suis pas jaloux. Répliqua Jean, mais je suis indigné de la duplicité de cet homme. Il faut qu'il ait l'âme bien vile pour oser prétendre à votre main après tout ce qu'il a fait contre vous. Tenez, ne parlons plus de lui. Je sens que je me mettrai en colère. Sur le soir, on rencontra une bourgade assez considérable. Monsieur Dubreuil se présenta au camp et lui dit où il se rendait. Il nomma même Pat Nunkey et se recommanda de son amitié. Mais le camp fut inflexible. « Je ne puis te laisser passer, toi et tes gens, » dit-il. « Le Tibet est une terre sacrée, comme Lhasa est une ville sacrée. Je pourrais vous faire mettre à mort, mais je ne veux pas violer les lois sacrées de l'hospitalité. » Tu camperas cette nuit dans le bourg, mais au lever du soleil, tu regagneras les frontières, et pour qu'il ne t'arrive rien en route, je te donnerai une escorte. J'ai dit. Monsieur Dubreuil n'insista pas. Il retourna auprès de ses compagnons, déplorant amèrement l'absence de Sakun, et se demandant si des complications plus graves n'allaient pas encore surgir et retarder son voyage. En peu de mots, il raconta sa visite au camp. « Le sort en est jeté, » dit-il. « Elles passeront la nuit ici. Demain, nous aviserons. » Timothée Fram et John Burdock étaient enchantés de la tournure que prenaient les choses. L'anglo-saxon voyait avec plaisir que le chef de la horde nomade, naguère rencontré, avait fait pour le mieux. Monsieur Dubreuil ne pouvait continuer son voyage, il fallait agir rapidement. Lu Chang ferait le reste. Il allait se mettre à la recherche du Chinois quand celui-ci se présenta à lui. « Tout est prêt pour ce soir, » dit le Céleste. « J'ai vu le camp demain. Monsieur Dubreuil et ses gens auront un désagréable réveil, mais nous serons loin. » Les deux hommes s'éloignèrent et rejoignirent Joe Murdoch qui avait préparé leur repas. Ils mangèrent de bon appétit, puis Timothée Fram vint saluer les Français et se retira. Monsieur Dubreuil et sa caravane étaient logés sous une sorte de hangar où se tenaient les marchands de pierres précieuses lors des foires. Le repas avait été silencieux, chacun se renfermait dans ses propres pensées. Quand ils eurent fini, Monsieur Dubreuil, Jean et le sergent Paulet sortirent un instant pour fumer un cigare. « Mais je ne sais pas ce que j'ai, » dit Jean Cascaret, « mais au bout d'un moment, je me sens fatigué comme jamais je ne l'ai été. »« Et moi de même, » fit le sergent Poulet, « j'ai eu l'envie de dormir invincible. Je vais aller m'étendre à côté de mes hommes. »« Oui, cela doit tenir aux fatigues de ces derniers jours. Nous avons pris fort peu de repos et nous nous en ressentons. » « Allez, je rentre. » Les trois hommes retournèrent au hangar. Comme d'habitude, M. Dubreuil se rendit auprès de sa fille pour l'embrasser. Mais Germaine dormait et il n'osa pas la réveiller. Lui-même se sentait terrassé par le sommeil et il s'écroula, plutôt qu'il ne s'étendit, sur son lit de fourrure. Le lendemain, il ne se réveilla que fort tard dans la matinée. Il voulut se lever, mais à sa grande stupéfaction, il ne put faire un mouvement. Il était solidement garrotté. Il jeta un coup d'œil autour de lui et il s'aperçut que tous ses amis, ainsi que les porteurs chinois et travailleurs annamites, étaient également garrottés. Le corps de cette bourgade, pensa l'ingénieur, a une singulière façon de pratiquer l'hospitalité. Mais attendons. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria Jean, qui s'éveillait à son tour. « On nous a attachés ?» Dire la stupéfaction des membres de l'expédition serait inutile. Tout à coup, Jean poussa un cri. « Et Germaine ?»«
Disparue avec Jannick, » répondit Onésime.
« Disparue ?
Oh, je comprends tout, » s'écria Jean.
« Cette somnolence qui nous a tous envahis hier soir après le repas.
Nous avons été endormis, et pendant notre sommeil, Germaine et Jannick ont été enlevés.
Oh, Timothée et Fram, si jamais vous me tombez sous la main !»
Il n'en dit pas plus long. À ce moment, le camp faisait son entrée sous le hangar. Il annonça à M. Dubreuil que, par suite d'ordres qu'il avait reçus, ils allaient être conduits enchaînés jusqu'à Lhassa. Il ignorait quel crime les Occidentaux avaient pu commettre, mais il avait été obligé d'obéir.
« Mais, dit M. Dubreuil, il était inutile de nous faire prendre du poison pour cela. Hier, tu n'avais qu'à m'expliquer ce que tu viens de me dire, nous t'aurions suivi jusqu'à Lhassa. »
« J'avais des ordres, » répondit le camp.
« Oh, dis plutôt, » interrompit Jean, « tu t'es fait faire complice de l'enlèvement de la fille de mon ami et de sa compagne. Conduis-nous à Lhassa, et tu verras ce qu'il en coûte d'attenter à la liberté des gens. »
Le camp lui lança un mauvais regard. Peut-être eut-il eu peur d'être allé trop loin, en se prêtant complaisamment aux machinations de Timothée et Fram. Il ne répondit pas à Jean, mais il ordonna que les prisonniers fussent déliés sur le champ, sous promesse toutefois de ne pas chercher à s'évader. L'ingénieur promit tout ce que l'on voulut. À peine délié, M. Dubreuil courut à sa cantine. Pendant son sommeil, elle avait été ouverte et un certain nombre de papiers relatifs à l'exploitation de la mine et à la construction de la ligne télégraphique avaient été dérobés.
« Oh, tout est perdu !» murmura l'ingénieur accablé. « Tous les malheurs s'abattent à la fois sur moi. Heureusement que les plans principaux et la lettre de Nasungse sont entre les mains de Sakun. Mais celui-ci a disparu. Oh, je suis bien définitivement ruiné.
D'ourage, monsieur Dubreuil, interrompit Georges Fromentier.
Non, tout n'est pas perdu.
Et se penchant à l'oreille de l'ingénieur, il lui murmura.
J'ai du nouveau à vous communiquer au sujet du médaillon.
Eh bien, interrogea l'ingénieur.
Il m'a été dérobé.
Comment cela ?
Oui, dérobé, mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'il a été remplacé par ceci.
Georges Fromentin tira de sa poche un ruban de moire bleu, noué par les bouts et auquel pendait un anneau d'or, sur le chaton duquel était dessiné le signe chinois signifiant « courage ».
« C'est étrange, » murmura l'ingénieur en rendant le bijou au jeune homme.
Cette bague est exactement semblable à un anneau que Patnunke avait offert à ma pauvre femme, quelque temps avant sa mort. André en avait hérité, mais est-ce bien le même? Et Germaine et Jannick, que sont-elles devenues? Nous ne pouvons aller à leur recherche, puisque nous avons engagé notre parole et promis de ne pas nous enfuir.
« Attendons, » dit Jean, qui avait entendu les dernières paroles de l'ingénieur, « nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. »
Cependant, le camp avait réuni une troupe d'hommes armés jusqu'aux dents et intimait l'ordre à l'ingénieur et à ses amis de le suivre. Porteurs et tirailleurs avaient été désarmés et chargés de bagages de toutes sortes. La route à parcourir était longue encore. Il y avait 2 jours que le camp avait quitté sa bourgade, quand il se trouva en présence d'une troupe de cavaliers qu'à leur costume il était aisé de reconnaître pour des soldats russes. Les 2 troupes se rejoignirent. L'ingénieur était enchanté de cette rencontre. La présence des Russes dans ces parages était de bon augure, et le camp n'aurait jamais se livrer à des voies de fête contre les membres de l'expédition française, connaissant la présence d'Européens dans la contrée. C'est sans doute pour cela que, tout en maintenant les Français prisonniers, ils n'avaient pas voulu les enchaîner. La troupe russe était commandée par deux officiers, le capitaine Alexis Grigorev et le lieutenant Ivan Gastonov, chargés par leur gouvernement d'une mission scientifique dans le Tibet et en même temps chargés d'assurer la police des frontières. Surpris de voir des Européens emmenés en captivité, ils interrogèrent M. Dubreuil, qui ne se vit d'aucun scrupule de raconter d'un bout à l'autre son odyssée depuis Canton, tout en taisant le véritable but de son voyage. « Je ne puis malheureusement rien faire pour vous, » répondit Alexis Grigorev. « Mais laissez-vous conduire à Lhassa. Vous m'y retrouverez, et je vous assure que j'aurai fait tout ce qu'il est en mon pouvoir pour vous faire rendre la liberté. Quant à celui que vous nommiez Timothée Fram, je suis chargé de l'arrêter. Je sais qu'il est venu au Tibet pour contrecarrer l'influence russe. D'autre part, je le soupçonne fort d'avoir fait une incursion sur le territoire russe, d'être l'auteur d'un vol de cartouches de dynamite et d'avoir pris des photographies d'un fort. Et quand a eu lieu ce vol ? Interrompit brusquement Kaskaret. 3 ou 4 semaines environ. Et le jeune homme montra à l'officier russe étonné le fragment de douille métallique qu'il avait trouvé sur le lieu de l'explosion. L'officier examina rapidement le morceau de cuivre. « Cela vient bien de notre dépôt. Décidément, ce Timothée Fram est un joli personnage. Espion, voleur et assassin, voilà plus qu'il m'en faut pour le conduire à la potence. Garez-lui si je le prends. En attendant, monsieur, dit-il à l'ingénieur, comptez sur moi, je vais aller directement à Lhassa, où vous me rejoindrez, sans nul doute, d'ici quelques jours. J'aurai fait le nécessaire. Adieu, et sans merci. » Les cavaliers russes disparurent dans un tourbillon de poussière, pendant que le camp, étonné de voir ses prisonniers en si bons termes avec les Russes, qu'il redoutait autant que le grand lama lui-même, reprenait lentement sa route. « Vous voyez bien, mon cher ami, dit Georges Fromentier, que j'avais raison en affirmant que tout n'était pas perdu. »« Ah, je recommence à espérer, répondit M. Dubreuil. Mais quel intérêt avait Timothée Fram à s'emparer de Jeannick, de ma fille ?»« Ah, ça je l'ignore, à moins que le misérable ne veuille forcer la pauvre enfant à lui servir de complice auprès des lamas. » Cet homme est capable de tout. Ou Germaine se laissera plutôt tuer que de servir les desseins d'un malhonnête homme. Mais je devine tout. Timothée Fram était certainement au courant de mes affaires. Mais qui a pu le renseigner? Ceci est encore un mystère à ajouter à tant d'autres. C'est bien lui qui nous a cité tous les ennuis qui nous ont assaillis au cours de ce voyage, et le crime même ne l'a pas fait reculer. N'ayez pas peur, dit Jean, nous sommes deux à lui en vouloir à mort. Onésime et moi. Soyez certain, monsieur Dubreuil, que le gredin paiera en gros ce qu'il nous a fait. Et puis c'est à moi à venger Germaine de l'affront qui lui a été fait. Et mit tant de chaleur en prononçant ces derniers mots, que M. Dubreuil devina le secret du jeune homme et ne put s'empêcher de l'attirer contre sa poitrine en murmurant « Vous êtes un brave cœur, mon cher Jean. » Chapitre 8. Quand Germaine et Jeannick se réveillèrent, elles se trouvèrent dans une sorte de palanquin dont les rideaux étaient hermétiquement fermés. Elles se demandèrent, non sans inquiétude, ce qui avait pu se passer. Elle ne pouvait se rendre compte de la route qu'elle suivait, car il était impossible de regarder au dehors. Soudain, Germaine se rappela la somnolence qui l'avait envahie, ainsi que sa camériste, peu de temps après le repas du soir. Il n'y avait pas de doute. Une manœuvre criminelle avait été tentée contre l'expédition française. Peut-être qu'en ce moment, l'ingénieur et ses amis agonisaient empoisonnés. L'image de Timothée Fram passa devant les yeux de la jeune fille. « Le misérable !» murmura-t-elle. « Il connaissait les projets de mon père. Depuis que nous sommes partis, il a tout fait pour empêcher l'expédition d'arriver au Tibet. Et quand il a vu que mon père allait réussir malgré tout, il n'a pas hésité à commettre un crime. Quel mensonge va-t-il me raconter? Et pourquoi ne m'a-t-il pas sacrifié comme les autres, ainsi que Jean-Nic? La jeune fille en était là de ses réflexions, quand le palanquin s'arrêta tout à coup. Les rideaux furent tirés de l'extérieur et Timothée Fram apparut. « Eh bien, mademoiselle, interrogea-t-il, comment vous portez-vous? « Veuillez me dire, monsieur, répondit Germaine, ce que signifie cet enlèvement. Où est mon père? Où sont mes amis? » Timothée Fram ne s'attendait pas à cela. Il comptait trouver la jeune fille à sa compagne en larmes et désespérée de la disparition de leurs amis. Au contraire, les deux femmes étaient calmes. Germaine surtout. Et l'anglo-saxon vit qu'il allait falloir user de ruse. « Pardon, mademoiselle, il n'est nullement question d'enlèvement. Quand vous saurez ce qui s'est passé, vous approuverez ma conduite à votre égard. » Voyons, allez, dites, et ne perdez pas de temps. Le camp, qui avait si généreusement offert l'hospitalité à M. Dubreuil, était vendu à la Russie. Et l'arrivée de l'expédition française, dont il ignorait les projets, a dû lui faire peur. Et dans la crainte de perdre l'appui des Russes, il a sans doute préféré anéantir l'expédition plutôt que de lui accorder sa protection. Remarquez, mademoiselle, que ceci n'est qu'une simple hypothèse. Je n'affirme pas que les choses se soient passées exactement comme cela. Mais bien, je comprends, mais voyons la suite. Dans le courant de la nuit, je fus réveillé par des allées et venues des Tartares. Je sortis pour voir ce qui se passait et aperçus les hommes de votre escorte ainsi que votre père, vos amis et vous-même étroitement garrottés. Personne ne bougeait. Je compris alors que le camp, avant de mieux réussir, avait mêlé un narcotique aux aliments qu'il avait livrés à l'expédition et je m'applaudis de n'avoir pas mangé. La jeune fille jeta un coup d'œil interrogateur à l'anglo-saxon. Mais Timothée Fram ne sourcilla pas, et ce fut le plus naturellement du monde qu'il continua. Quand chacun fut garrotté, les Tartares se retirèrent sans même laisser de sentinelle pour garder les prisonniers. Je résolus alors de vous sauver coûte que coûte. Je vous délivrai, ainsi que votre camériste, et vous transporterai dans ce palanquin. Mais comme j'allais délivrer vos amis, l'alarme fut donnée par je ne sais qui, et je fus obligé de m'enfuir précipitamment pour vous soustraire à la fureur des Tartares. Et c'est pour cela, sans doute, que vous m'avez si bien enfermé dans ce palanquin, dit Germaine avec calme. Timothée Fram ne répondit pas. Il sentait que la jeune fille n'était pas dupe de ses mensonges. Néanmoins, il résolut de jouer la comédie jusqu'au bout. « Quant à vous avoir volontairement enfermé, dit enfin l'anglo-saxon, détrompez-vous. Cela tient à ce que les rideaux de ce palanquin se ferment à l'extérieur, et dans ma précipitation à vous sauver, je n'ai pas pris garde à ce détail. Veuillez donc m'excuser. » Cela pouvait être vrai, et Germaine ne fit aucune remarque. Mais elle n'interrogea plus le reporter à ce sujet. Il aurait continué de mentir. Ce qu'elle avait entendu lui suffisait. « Et où nous conduisez-vous, maintenant ?»« Alors ça, mademoiselle, je vous remercie. » Germaine se rejeta dans le fond du palanquin et se mit à réfléchir. La certitude d'être bientôt à Lhassa ranimait son courage. Une fois dans la ville sainte, il lui serait facile de retrouver Paitenkwey. Elle lui dirait la vérité et se placerait sous la protection du lama. Elle fit part de ses espérances à Jean-Nic. Celle-ci secouait la tête d'un air de doute. Mais ne voulant pas déplaire à sa maîtresse, elle affecta d'être beaucoup plus rassurée qu'elle ne l'était en réalité. Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Germaine n'adressa pas une seule fois la parole à Timothée Fram. Celui-ci, de son côté, du reste, évitait de se rencontrer avec la jeune fille. Il se contentait seulement d'être prévenant à son égard. Les premiers temps, il avait essayé lui-même de s'informer des désirs de la jeune fille. Mais Germaine lui avait intimé l'ordre de ne plus lui parler. Il en avait été de même pour Joe Murdoch. La figure chafouine de l'Écossais déplaisait à Germaine, et bien que cette dernière eût une aversion marquée pour Lu Chang, le chef des porteurs, ce fut celui-ci qui fut chargé de subvenir aux besoins des deux jeunes filles. Cependant, on approchait de Lhasa. Bientôt, ce fut en vue d'un grand monastère de bouddhistes où la caravane de Timothée Fram s'arrêta. Ce monastère devait renfermer un nombre considérable de moines, à en juger par son apparence extérieure. Il comprenait 4 corps de bâtiments, espacés entre eux par d'immenses cours, ou plutôt d'immenses jardins entretenus avec soin. Les murailles étaient couvertes de sculptures en parfait état. Le portique d'entrée, situé haut d'un escalier de marbre d'une 30aine de marches, était gardé par 2 statues de Bouddha en bronze doré qui resplendissaient au soleil. Les moines se promenaient dans les jardins ombragés. Des pièces d'eau, à la surface desquelles nageait tout un monde de canards mandarins, apparaissaient çà et là dans les massifs de verdure. Enfin, le monastère présentait un aspect de prospérité florissante. Tout était soigneusement entretenu, et l'on était loin des pagodes en ruine et des couvents délabrés de la Chine. Timothée Fram, son escorte, Germaine et Jeannick, reçurent une hospitalité cordiale au monastère. Ils furent accueillis par le supérieur, un grand moine de 45 à 50 ans environ, dont la physionomie était empreinte d'une grande majesté et d'une douce expression de bonté. Il fit conduire les deux jeunes filles dans une partie reculée du monastère, où elles furent confiées à la garde de prêtresses bouddhistes. Puis il emmena Timothée Fram dans sa cellule et lui demanda ce qu'il venait faire au Tibet. L'autre confessa qu'il se rendait à Lhasa, chargé d'une mission par le gouvernement français. « Je devais venir, ajouta-t-il, avec un de mes amis, le véritable chef de la mission, l'ingénieur Dubreuil de Canton, mais au dernier moment il est tombé malade et il m'a chargé de prendre les devants. » « Ah, vous ne pouvez aller à Lhasa, » interrompit le supérieur. « Aucun étranger ne peut y pénétrer. Mais je pourrais vous être utile dans l'accomplissement de votre mission. Vous disiez que l'ingénieur Dubreuil, c'est bien le nom de votre ami, venait pour exploiter une mine d'or et établir une ligne télégraphique entre Lhasa et Shanghai. » Ah, parfaitement, oui, mais vous avez les pouvoirs de votre ami? Naturellement. Voici une lettre de sa main m'autorisant à commencer les négociations en attendant sa guérison. Et voici les plans de la ligne télégraphique. Oh, cela est fort bien, dit le supérieur. Vos papiers sont parfaitement en règle. Je vais annoncer votre arrivée au grand lama. Il demandera à vous voir, sans doute. Le supérieur hésita un moment. « Noble seigneur, dit-il enfin, voulez-vous me dire votre nom ?»« Georges Fromentier, répliqua aussitôt Timothée Fram. » Le supérieur s'inclina, frappa sur un gond et fit conduire l'anglo-saxon dans les appartements qu'il avait fait préparer à son intention. En même temps, il ordonna que le pseudo-Georges Fromentier fût traité avec les plus grands égards. Timothée Fram était enchanté. Il allait, sous peu, jouir du fruit de ses crimes. Mais si l'anglo-saxon avait su à qui il venait de parler, il aurait été beaucoup moins joyeux. Le supérieur du couvent, en effet, n'était autre qu'Abton Key, l'ami intime de M. Dubreuil. Et si Timothée Frame avait su, en outre, que Sakun était un monastère depuis la veille, et que le guide avait remis au lama les papiers que M. Dubreuil lui avait confiés en cas d'accident, il est plus que sûr que le reporter anglais eut tout fait pour prendre au plus tôt la fuite. Mais Timothée Frame ne savait pas. Pendant qu'il s'endormait dans une douce quiétude, Pan Nunkei se rendait auprès de Germaine, à qui il se faisait connaître et la mettait ensuite au courant de ce qui venait de se passer. Germaine voulut raconter son voyage, mais le lama l'interrompit. « Je sais tout, » fit-il. « Sakun m'a tout dit. »«
Comment, Sakun? Mais il a disparu. »«
Oui, mais il n'est pas loin. » Et au même moment, Sakun apparut. La jeune fille aurait voulu l'interroger, savoir pourquoi il avait déserté la caravane avec le palanquin. Mais le rusé guide mit un doigt sur sa bouche et du regard désigna Patrun Key. Germaine comprit que le moment de connaître le secret de cette affaire n'était pas encore venu. Elle garda le silence. « Quant à votre compagnon, » dit Patrun Key en s'adressant à la jeune fille, « je ne sais ce que je dois faire à son égard. J'attendrai l'arrivée de votre père et de vos amis.
Ah, »« ils ne sont donc pas morts ?»«
Mais non !» répondit le lama en souriant. « Pourquoi croyez-vous qu'ils sont morts ?»«
Mais n'ont-ils pas été empoisonnés par les tartares ?»
Patrun Key sourit sans répondre. Cela faisait sans doute partie de ce qu'il devait taire momentanément. « Attendez, mademoiselle, » fit-il, « vous apprendrez des choses merveilleuses. » Cependant, Timothée Frame causait avec Murdoch.
« Tu vois, Joe, tout nous réussit à merveille. Encore quelques jours et nous serons riches. »
« Vous voyez tout en rose, Mylord, » répondit Jaune d'un air lugubre.
« Vous regardez trop dans l'avenir. Mais si, comme moi, vous vous contentiez d'observer ce qui se passe dans le présent, vous auriez moins de confiance.
Que veux-tu dire ?»«
Bien, je veux dire tout simplement que j'ai aperçu Sakun tout à l'heure. Et tenez, le voilà qui passe justement en face de nous. » Timothée Frame se précipita à la fenêtre, mais soudain il recula, la figure décomposée par la terreur.
« Le palanquin mystérieux !» bégaya-t-il.
Mais il se réjouit bientôt, car il n'était pas homme à s'effrayer pour si peu. Il eut vite pris son parti de cette aventure.
« Tu avais raison, Joe. »
« J'ai bien peur que nos affaires ne s'arrangent pas aussi facilement que je le croyais. Mais tout n'est pas perdu. Les Tibétains ne peuvent rien contre moi, et au besoin, nous le réclamerons du gouvernement russe, qui doit avoir les avant-postes non loin de la frontière. »
John ne paraissait pas convaincu. Son maître lui semblait un trop beau joueur, un joueur trop aventureux même.
Ah, moi, je vous dis que tout cela finira mal, Mylord.
Bon, j'ai toujours peur.
Sur le soir, on signala l'arrivée d'une troupe d'étrangers. C'était le capitaine Grigorev et son lieutenant Kastanov. Ils furent reçus par Patrun Key, avec qui ils eurent un long entretien, à la suite duquel ils se retirèrent pour aller camper à quelque distance du monastère. Timothée Flamme et Joe avaient surveillé les allées et venues des Russes. Leur installation en dehors des murs du couvent ne les inquiéta pas, et le reporter décida que, dès le lendemain, il aurait une entrevue avec les officiers russes.
Les deux hommes s'endormirent tranquillement. Patunkey prit son repas avec Germaine et Jeannick. La jeune fille, depuis qu'elle savait son père vivant, avait repris toute sa gaieté. Elle raconta certains épisodes de son voyage avec beaucoup de verve, et Patunkey l'écoutait en souriant. Germaine accabla le lama de questions tendant à percer le mystère du palanquin. Mais Patunkey se contentait de répéter « Bientôt, bientôt, non, c'est pas encore le moment. » Enfin, l'heure de se reposer arriva. Germaine et Jeannick allaient se retirer quand le lama les retint. « Veuillez me suivre, » dit-il aux jeunes filles. Très intriguées, elles l'accompagnèrent. Elles traversèrent à sa suite deux ou trois jardins qu'éclairait seule la lumière des étoiles. Enfin, elles arrivèrent devant une dernière cour un peu obscure, au milieu de laquelle se dressait une masse sombre dont elles ne purent préciser la forme. Soudain, une lueur bleue éclaira l'intérieur de l'objet mystérieux, et Germaine et Jeannick reconnurent alors le palanquin qui les avait suivis durant leur voyage. Elles reconnurent également la lueur bleue qu'elles avaient déjà aperçue lors du massacre des porteurs de Timothée Fram. Emportée par la curiosité, Germaine s'élança vers le palanquin, suivi de Patunkey, qui souriait toujours. Elle écarta les rideaux et regarda. Elle poussa un cri d'étonnement et se tourna vers Jeannick. « Regarde, Jeannick, regarde, je crois avoir mal vu. » Jeannick, à son tour, eut un cri de surprise. « Seigneur Dieu !» s'écria-t-elle. « C'est notre jeune maîtresse !» À ce moment, la mystérieuse personne sortait du palanquin et ouvrait ses bras à Germaine, qui s'y précipitait en criant. « André, ma sœur André, ah, mais Georges avait raison !» Deux ou trois jours après les événements que nous venons de raconter, M. Dubreuil, Georges Fromentier, Jean Cascaret et le reste de l'expédition française, toujours escortés par les Tartares, arrivaient au monastère de Patunkey. La situation de nos amis avait changé. Le camp, revenu à de meilleurs sentiments, avait fait rendre leurs armes à ses prisonniers et avait insisté auprès de M. Dubreuil pour l'accompagner jusqu'à Lhassa. L'ingénieur avait attribué ce changement d'humeur à la présence d'Alexis Grigorev et de ses soldats. Il avait accepté l'offre du camp et les deux troupes s'étaient dirigées vers Lhassa. Les Français furent reçus sur le seuil du monastère par Patunkey, qui se précipita dans les bras de son ami aussitôt qu'il l'aperçut. Puis il conduisit ses hôtes dans une grande salle où une collation avait été servie. Là, il annonça à M. Dubreuil que Germaine était saine et sauve, ainsi que sa camériste, et qu'il allait bientôt la voir. Dès que l'arrivée de M. Dubreuil avait été signalée, Germaine avait voulu courir à sa rencontre, mais le sage Patunkey l'en avait dissuadé. La jeune fille s'était enfin rendue à ses raisons et elle avait attendu avec impatience la venue de son père. Depuis qu'elle avait retrouvé sa sœur, elle ne se sentait plus de joie et durant des heures entières, elle lui racontait ce qui s'était passé depuis son enlèvement. Mais malgré tous ses efforts, toutes ses câlineries, elle ne put décider André à lui dire à son tour ce qui lui était arrivé. La jeune fille, si soudainement retrouvée, semblait obéir à une consigne, et à tout ce que lui demandait Germaine, elle se contentait de répondre, comme l'avait fait Patunkey, « Plus tard !» Cependant, M. Dubreuil, Georges et surtout Jean manifestaient leur impatience de ne pas voir venir la jeune fille. En vain, Patunkey essayait-il de les rassurer. Il voulait à tout prix savoir où elle était, ce qu'elle faisait. « Vous allez être satisfait, » dit enfin le lama. Et il frappa sur un gong. Au même moment, une tenture se souleva et une jeune fille parut. Tous s'étaient levés et déjà se précipitaient à sa rencontre, quand ils demeurèrent cloués sur place par l'étonnement. Ce n'était pas Germaine. « Ma fille André !» s'écria enfin M. Dubreuil en courant à la jeune fille. « Ma fiancée !» s'exclama Georges, tandis que des larmes de joie perlaient à ses yeux. Oh, ce fut un moment d'indicible bonheur. M. Dubreuil ne pouvait se lasser d'embrasser cet enfant chéri, si longtemps pleuré. Quant à Georges, sa joie était immense. Il retrouvait sa fiancée et il remerciait Dieu, en lui-même, de lui avoir donné la foi de ne point croire à sa disparition. Au milieu de cette scène, Jean paraissait abasourdi. Il regardait autour de lui sans rien voir et sans rien comprendre à ce qui se passait. Il fut tiré de son effarement par une voix caressante qui lui dit tout à coup « Eh bien, mon cher Jean, on dirait que cela vous fait de la peine de voir que ma sœur est retrouvée. » Il n'en fallait pas plus pour ramener le jeune homme au sentiment des choses extérieures. Il ne dit pas un mot, mais il prit les mains de la jeune fille qu'il contempla quelques instants. « Ah, ma chère Germaine, dit-il enfin, pardonnez-moi, mais je vous ai cru morte. Mais votre père... »« Mon père, répliqua Germaine, voyez comme il est heureux, ne le dérangez pas. Mon tour viendra, allez. » À ce moment, M. Dubreuil s'aperçut de la présence de Germaine. Il l'attira contre son cœur et demeura longtemps sans parler, savourant le bonheur de voir ses deux filles près de lui. Les premiers moments d'émotion passés, tout le monde fit honneur à la collation préparée par les soins de Pat Nunkey. M. Dubreuil ne savait comment remercier son vieil ami de ce qu'il avait fait pour lui. Mais le lama se dérobait aux embrassades de l'ingénieur. « Mais ne parlons pas de cela, disait-il. Autrefois, tu m'as rendu un grand service. N'est-ce pas juste que je m'acquitte de ma dette ?» Il répéta souvent cette phrase qui faisait allusion au courage que l'ingénieur avait montré jadis en lui sauvant la vie à Shanghai. Germaine, de son côté, pressait sa sœur de raconter ses aventures. André y consentit de bonne grâce. Elle dit comment elle avait été enlevée par des pirates un jour qu'elle faisait une promenade en barque sur le fleuve. « Les deux amis qui m'accompagnaient, ajouta-t-elle, furent massacrés sous mes yeux. Je m'attendais à avoir le même sort. Un chef qui parlait un mauvais anglais me sauva la vie et me débarrassa de mes liens, à condition que je promette de ne pas m'évader. Oh, je promis tout ce qu'on voulut. Je fus délivré de mes entraves et je m'enfonçai dans la forêt à la suite des pirates qui m'emmenaient prisonnière. Je marchais plusieurs jours de suite, j'étais brisé de fatigue. Cependant, je ne savais pas encore ce que les pirates décideraient à mon sujet. Ceux qui me portaient disaient qu'ils voudraient bien me tuer et que j'en causerais beaucoup d'ennui. Je ne pouvais pas m'empêcher de frissonner en les entendant, mais le courage ne m'avait pas abandonné. Nous arrivâmes bientôt sur les frontières septentrionales du Yunnan. Là, les pirates se débarrassèrent de moi en me vendant à un marchand mongol qui se rendait au Tibet pour parcourir les foires et faire un pèlerinage à Lhasa. Pendant de longs mois, je suivis cet homme qui, du reste, se conduisait toujours fort humainement à mon égard. Enfin, nous arrivâmes à Lhasa. Là, je demandai à un bon chinois s'il ne connaissait pas un lama nommé Pat Nunkey. « Je le connais bien, me dit-il, mais tu ne pourras pas lui parler. Mais peux-tu lui remettre quelque chose de ma part? Cela ne t'engage à rien. et si tu t'acquittes fidèlement de ce message, tu n'auras pas à t'en repentir. » Il y consentit, et je lui remis alors une bague en or. Attachée à un ruban bleu et portant gravé sur le chaton le signe chinois qui signifie « courage », interrompit vivement Georges. « Je vous rends ce qui vous appartient, ma chère André !» Et il tendit le bijou à la jeune fille. Celle-ci le prit en souriant et continua son récit. « Cette bague avait été autrefois donnée à ma mère par Patnunkei lui-même. À peine l'eut-il entre les mains, il se hâta d'accourir au caravansérail où je me trouvais et de me retirer des mains du marchand mongol qui l'indemnisa richement. Quant au jeune bonze, oh oui, je parierais que c'est Sakun, interrompit Jean. Vous avez deviné juste, monsieur Jean. Patnunkei l'attacha à la pagode du monastère où nous nous trouvons. Et quand Patnunkei connut le malheur arrivé à mon père, il chargea Sakun d'une lettre pour lui et d'instructions pour le vieux supérieur de la pagode de Canton. Voilà donc pourquoi sa physionomie ne me paraissait pas inconnue et que je crus le reconnaître quand je le pris à mon service à Li Changfu, dit à son tour M. Dubreuil. Telles ont été mes aventures depuis le jour de mon enlèvement, fit André. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Sinon, dit vivement Georges en lui prenant la main, que pendant le cours de notre long voyage, vous avez été véritablement notre ange gardien. Mais que voulez-vous dire? Demanda la jeune fille. Oh, tout simplement, ma chère André, que la religieuse du mystérieux palanquin n'était autre que vous-même et que vous vous êtes trahi, à mes yeux du moins. Quelle personne autre que vous, en effet, avait intérêt à substituer un ruban bleu au crêpe qui entourait notre photographie? Quel autre que vous avait intérêt à nous crier « Courage !» quand nous étions enfermés dans les souterrains de la pagode? Enfin, à me ravir le médaillon et à le remplacer par la bague que je vous ai rendue. Eh bien oui, c'était moi. Et votre médaillon, je vais vous le restituer. À son tour, elle offrit le médaillon au jeune homme. Chacun félicita André de son dévouement et de son énergie, et la collation se poursuivit joyeusement. « Mais il nous manque quelqu'un, » fit observer M. Dubreuil. « Pourquoi Sakun n'est-il pas avec nous ?»« Bon, il va venir, » répondit Patnunkei. « Et Timothée Fram ?» demandèrent Jean et Onésime. « Il va venir aussi, » murmura le bouddhiste d'un ton singulier. Quelques instants plus tard, Sakun entrait dans la pièce, suivi de Timothée Fram et de Joe, qu'accompagnaient les officiers russes Grigorev et Gastounov. On fit une réception enthousiaste au nouveau venu. « Nous voilà réunis encore une fois, » dit M. Dubreuil, oubliant son ressentiment contre l'anglo-saxon et s'adressant à Timothée Fram. « Nous ne nous reverrons sans doute pas de longtemps, car vous allez, n'est-ce pas, continuer votre voyage d'exploration ?»« Oui, » répondit Timothée Fram, « je vais prendre quelques jours de repos et je repartirai ensuite pour les mines de la Sibérie. » déclara gravement Grigorev en lui mettant la main sur l'épaule. « Vous dites, monsieur ?» clama l'anglo-saxon, blême de rage. « Je dis, monsieur, » riposta Grigorev, toujours très calme, « que vous allez continuer votre voyage dans la direction des mines de la Sibérie. Il me semble que c'est clair. Et votre digne acolyte vous suivra, » ajouta Gastounov, en saisissant Jean Bourdoc au collet. « Monsieur, » interrompit Timothée Fram en s'efforçant de paraître sans crainte, « on n'arrête pas ainsi, comme deux vagabonds, deux sujets de notre gracieux souverain. »« Mais, monsieur, comme voleur, monsieur, et comme espion !» Timothée Fram, serrant les poings, s'était dégagé de l'étreinte de l'officier et allait se précipiter sur lui. Toute résistance serait inutile, dit froidement Grigoreff. J'ai entre les mains des preuves de votre culpabilité. D'abord, vous avez des robes et des cartouches de dynamite au fort de X, actuellement en construction, sur les frontières russo-anglaises. Ensuite, vous avez réussi à photographier les plans du fort. J'ai contre vous un mandat d'amener pour des faits antérieurs d'espionnage. En conséquence, je vous arrête. Timothée Framme et Joe Murdoch étaient atterrés. Les deux officiers russes s'excusèrent avec politesse auprès de M. Dubreuil et de ses amis de les rendre témoins d'une pareille scène. « Allons, messieurs !» ordonna enfin Grigoreff au coupable. « Suivez-nous !» Vainement, Germaine et M. Dubreuil essayèrent d'intercéder pour les deux misérables. Les officiers russes furent inflexibles. Ils devaient avant tout faire leur devoir, obéir à leurs consignes. Tout à coup, André se leva. « Il est inutile d'intercéder en faveur de ces deux coquins, en admettant même que ces messieurs consentissent à les laisser libres. Moi, je serai la première à réclamer leur incarcération. L'exil dans les steppes de la Sibérie vaut mieux pour Timothée Flamme et son complice que le sort qui les attendrait ici. Déjà Lu Chang, le chef de leurs porteurs, a été emprisonné par ordre du Grand Lama. Ces misérables savent pourquoi. Pas de pitié pour celui qui a tenté de faire périr une jeune fille dont il avait demandé la main. Car voici ce qu'il a fait. C'est lui l'instigateur de l'attaque des jonques. C'est lui qui a suscité des ennuis à M. Debreuil, à Chang Lifu, qui l'a fait renfermer dans les souterrains de la pagode, qui l'a fait attaquer par ses porteurs pour simuler une attaque des pirates, qui a fait sauter le barrage du Gac, enfin qui a commandé l'empoisonnement de toute la caravane et procédé à l'enlèvement de Germaine, pour la récompenser sans doute de soi dont elle l'a entouré lorsqu'il s'est trouvé blessé. Il faut qu'il soit puni. Si vous ne l'emmenez pas, messieurs, ajouta André en se tournant vers les officiers russes, c'est nous qui nous chargeons de son châtiment. Germaine voulut intercéder, mais sa sœur l'écarta avec une certaine vivacité. Que ces messieurs fassent leur devoir, s'écria-t-elle. Timothée Framme et Joe furent entraînés par les soldats. Bientôt après, les officiers russes prirent congé de M. Dubreuil et de ses amis. Après quelques semaines de repos, pendant lesquelles M. Dubreuil étudia les plans de la mine et de la ligne télégraphique en compagnie de son ami Pat Lunkey, l'ingénieur se mit à l'œuvre. Dès le début, la mine montra une richesse considérable. Les filons aurifères étaient abondants et nombreux. L'ingénieur eut vite fait de regagner la fortune qu'il avait perdue. Trois mariages eurent lieu le même jour, célébrés par un missionnaire de passage à Lhassa. Georges et Jean ont épousé Germaine et André. À l'heure qu'il est, les deux cousins sont devenus beaux-frères. Onésime et Jeannick ont suivi l'exemple de leur maître et comme eux se trouvent parfaitement heureux. Il ne parle de revenir en France que lorsque M. Dubreuil lui-même y retournera. Pat Lunkey est devenu membre du Grand Collège des Lamas. Sa réputation de sagesse et de sainteté est proverbiale dans tout le Tibet. Sakun, devenu supérieur d'un monastère de Lhasa, visite fréquemment ses amis. Quant au sergent Paulet, son congé fini, il est venu rejoindre M. Dubreuil à la mine, auquel il travaille en qualité de surveillant dans les chantiers du lavage de l'or. Tous sont parfaitement heureux et se plaisent à se rappeler les mauvais jours qu'ils ont passés ensemble au milieu des périls de toutes sortes. Fin.